Bonjour à toutes et tous. Nous accueillons aujourd'hui, donc pour cette conférence chez MOLA, Pierre Charbonnier, qui est chargé de recherche au CNRS et enseignant à Sciences Po. Il est notamment l'auteur d'Abondance et Liberté, une histoire environnementale des idées politiques chez La Découverte en 2020, dont il propose aujourd'hui la suite avec Vers l'écologie de guerre, une histoire environnementale de la paix. Il présente ces deux ouvrages comme un diptyque, donc en fait c'est le tome 2 c'est la suite véritablement. Pierre Charbonnier, à travers ce nouveau livre, explore les piliers de la modernité politique. Donc le premier s'était intéressé à la liberté, le second se penche sur la paix. À chaque fois, il montre que la recherche de l'abondance, autrement dit la croissance économique ou dans un langage marxiste, le développement des forces productives, est mis au service du projet moderne, d'abord de la liberté puis de la paix dans le contexte de l'après-guerre. Son objectif ici est de repenser le lien entre soutenabilité et sécurité. Comme il l'explique, cela permet aux écologistes d'apprendre à parler le langage de la géopolitique. Voilà. Alors qu'il accuse les écologistes, non sans sans doute quelques fondements, de contourner, voire contester les enjeux de souveraineté à travers le recours soit au local, soit au supranational. En fait, ils oublient un peu parfois l'État, et en tout cas, c'est la critique qu'ils portent aujourd'hui. La question politique est ainsi centrale dans sa philosophie. Elle est même d'abord géopolitique. C'est la raison pour laquelle il mobilise en particulier les dernières recherches anglo-saxonne en histoire comme en relations internationales, pour montrer que l'après-guerre a constitué une rupture dans l'anthropocène, une nouvelle époque géologique où les hommes deviennent la principale force de changement sur Terre. Nous sommes aujourd'hui encore marqués par les rapports entre puissances issus de la guerre froide, qu'il est indispensable de prendre en compte pour changer de paradigme. C'est donc un appel au réalisme politique. Pour un philosophe, ce n'est pas sans sel. Alors, j'ai donc une série de questions à vous poser, Pierre Charbonnier. La première entre elles, c'est que vous pointez en particulier le rôle d'un événement. Vous insistez beaucoup, évidemment, sur la guerre en Ukraine qui marque, selon vous, selon vos termes, le tournant des années 2020. Alors, quel sens donnez-vous à cette guerre?
Oui, effectivement, quand j'avais commencé à travailler à ce livre, c'était avant la guerre en Ukraine, bien avant. J'avais commencé à essayer de faire cette histoire des rapports entre le pouvoir politique et l'occupation de la terre. D'ailleurs, à ce moment-là, le titre provisoire du livre était « Le pouvoir et la terre ». Puis après, on a changé, et on a changé en partie sous l'influence de cette guerre. Parce que lorsqu'elle est survenue, donc à l'hiver, à la fin de l'hiver 2022, on a eu un cas très facile à observer, si on peut dire, malheureusement, d'une convergence entre des politiques de sécurité et des politiques climatiques, des politiques de décarbonation. L'argument était simple, je pense que la plupart des gens qui m'écoutent en ce moment s'en souviennent, même si aujourd'hui il est moins vivace qu'il ne l'a été. Le meilleur moyen pour l'Europe de limiter l'effort de guerre russe sans envoyer de troupes sur le sol ukrainien, c'est d'arrêter d'acheter le gaz et le pétrole qu'ils nous vendent et dont ils tirent une rente extrêmement importante. Et donc, il faut faire un effort de sobriété, de décarbonation, pour limiter la puissance et l'effort militaire russe, et évidemment, en même temps, pour l'effort climatique. Donc, on peut dire que l'argument de sécurité pouvait se renforcer d'un argument climatique, pour ceux qui s'intéressent au climat. Et pour ceux qui s'intéressent à la sécurité, l'argument sécuritaire se renforçait réciproquement. L'argument climatique se renforçait réciproquement d'un argument sécuritaire. Une collègue américaine qui avait écrit à peu près à un moment un article qui portait sur la convergence entre sécurité et soutenabilité. Donc c'est ça ce que j'ai fini par appeler l'écologie de guerre dans un petit texte qui était paru au mois de mars 2022. C'est ça. C'est en fait on subordonne les impératifs climatiques à des impératifs de maîtrise de notre destin géopolitique dans un contexte d'explosion de la rivalité avec la Russie. Donc ça a eu l'effet de réorienter un petit peu mon projet philosophique, intellectuel. En tout cas, ça a eu pour effet de lui donner un ancrage dans la vie politique beaucoup plus évident qu'il n'aurait pu l'avoir auparavant. Un petit peu de la même manière que quand j'ai publié Abondance et Liberté en 2020, c'était à peu près en conjonction avec le moment des Gilets jaunes. où le croisement entre la question sociale et la question climatique était devenu assez évident pour tout le monde, sous la forme d'un mouvement de contestation, bah là, voilà, j'avais en quelque sorte ma alors, preuve, c'est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas, mon témoignage historique concret du sens de l'histoire que je voulais écrire.
Oui, c'est intéressant. On voit d'ailleurs que votre philosophie est contextualisée de ce point de vue. Alors, vous venez d'évoquer le concept central de cet ouvrage, qui est celui d'écologie de guerre, qui effectivement permet de redéfinir les rapports, vous l'avez un peu évoqué, entre soutenabilité et sécurité. Est-ce que vous pourriez le développer un petit peu? Donc, qu'est-ce que vous entendez exactement par écologie de guerre? Vous en avez dit deux mots, mais est-ce que vous pouvez peut-être nous le présenter plus complètement?
On peut dire il y a trois choses différentes sur le lire et le comprendre de trois manières différentes. La première, c'est celle que je viens d'expliquer, c'est-à-dire c'est un moment. Donc, c'est-à-dire en 2022, tous les leaders politiques européens, et presque tous en fait, à l'exception de la frange la plus à droite, dont on peut supposer qu'elle est aussi la plus proche du gouvernement russe, donc du gauche à la gauche, l'écologie, le centre, tout le monde dit voilà pourquoi il faut se passer des énergies fossiles, c'est bon pour le climat, c'est bon pour l'Europe. Ursula von der Leyen le dit, le répète, tous les leaders politiques écologistes le disent, le répètent, ça transcende en partie certains clivages idéologiques. Ça n'est pas d'ailleurs, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que ce discours politique-là, je l'endosse de manière naïve, directe, il est pas sans poser des difficultés. En tout cas, c'est un marqueur politique très fort dans l'histoire contemporaine de l'Europe et du reste du monde. Écologie de guerre, c'est un moment. D'ailleurs, ce moment, il se dissipe assez vite. Après, 2023, 2024, c'est plutôt la période du backlash contre les politiques climatiques. La résistance, on pourra en parler après, si vous voulez. Donc, c'est un moment. La deuxième manière de le comprendre, c'est de dire c'est un moment qui pourrait devenir une structure. C'est-à-dire, c'est un moment qui pourrait être l'amorce d'une redéfinition en profondeur des raisons pour lesquelles on l'a fait, cette transition. Ça voudrait dire que, effectivement, les questions de souveraineté, de sécurité, avec leurs acteurs concrets, les armées, les institutions d'expertise, de préparation de la guerre, etc., sont dans une alliance stratégique avec les questions climatiques. Donc là, on étend le sujet. Par exemple, quand les États-Unis disent nous avons besoin d'accélérer. Le développement des énergies vertes dans notre pays, on le fait pour le climat, mais on le fait aussi pour contrer la puissance émergente de la Chine. Ça, c'est de l'écologie de guerre. Depuis 2020, même un petit peu avant, les États-Unis font ça. C'est le point commun entre la politique étrangère de Trump et de Biden. C'est une question d'hégémonie qui se cache derrière le développement de ces industries. Donc ça, c'est une tendance très lourde, très profonde de la politique contemporaine qu'on peut essayer de capter à travers cette notion et dont on peut évidemment discuter aussi les implications. Et puis la troisième façon de comprendre l'expression, en fait, c'est celle qui structure tout le livre. C'est pour ça que, d'ailleurs, elle donne son titre au livre. Ça consiste à dire, et si au fond la question climatique n'était pas structurellement, pour des raisons historiques très profondes, qu'on peut faire remonter au moins au XVIIIe siècle, et peut-être même avant, une question géopolitique. Une question qui a trait au rapport entre la guerre et la paix. Donc ça, peut-être ce dont on va parler plus en détail maintenant, c'est l'histoire longue du problème. Pourquoi y a-t-il ce rapport si structurant, si omniprésent, entre la façon dont on déploie notre contrôle sur la terre, sur les ressources, sur les territoires, et l'idée qu'il faille essayer de se défaire de la violence politique. Alors, donc c'est pour ça que ce livre n'est pas simplement là pour discuter des événements contemporains autour du climat et des conflits géopolitiques, mais aussi et surtout pour essayer de comprendre l'histoire longue, des racines profondes de ces enjeux.
Alors justement, on va y revenir, puisque vous êtes aussi un historien des idées, hein, clairement dans l'approche que vous retenez. Pour vous, le réalisme géopolitique, voilà, semble en tout cas vous convaincre, hein, d'une certaine manière, peut-être de vous insister, hein, sur la dimension contre-intuitive de cela pour quelqu'un qui se veut écologiste, mais vous revenez longuement sur l'échec du pacifisme libéral et d'un paradigme kantien, hein, qui est censé assurer la paix, en fait. Hein, voilà. Donc là, vous faites effectivement toute cette histoire-là. Alors, quelles sont les limites, justement, de ce pacifisme libéral, selon vous, et notamment de ce paradigme kantien dont vous faites la critique?
Oui. Alors, effectivement, un des objectifs du livre, qui en poursuit plusieurs en même temps, c'est d'essayer de proposer une histoire de la question environnementale, écologique et climatique un petit peu différente de celle qui est généralement proposée par l'histoire des idées et d'ailleurs par le mouvement environnementaliste lui-même, qui sécrète sa propre conscience historique, si on peut dire. L'histoire que je propose consiste à dire qu'il y a un lien historique profond entre, qui est ambigu d'ailleurs, hein, entre, disons, l'universalisme libéral, dont effectivement Kant est un des principaux penseurs, et la façon dont l'écologie politique aborde les relations internationales. Au tournant du 18e et 19e siècle, donc, hein, Kant écrit son traité sur la paix perpétuelle dans les toutes dernières années du 18e siècle, mais il s'inscrit dans un contexte intellectuel et philosophique beaucoup plus large. Hein, c'est pas du tout le seul à théoriser la paix mondiale à ce moment-là. Il y a l'idée qu'on peut développer une science de la paix, c'est-à-dire l'idée que les rapports entre les États ne sont pas fatalement, ne s'effondrent pas de manière fatale dans l'anarchie internationale. Hein. La thèse hobbesienne, en fait, ne serait pas exacte. On peut, en fait, étendre le règne de la raison humaine aux relations internationales, qui ne sont pas seulement des relations de force, à travers le droit international, à travers le développement de l'économie et de la division internationale du travail. Et à travers une idée que Kant reprend en fait au providentialisme chrétien, l'idée qu'en fait, parce que la terre est ronde, parce que la terre est finie, nous sommes voués par les forces providentielles de la nature à trouver une entente entre les peuples, parce que comme nous sommes tous interdépendants sur un socle matériel commun, ce qu'on appellerait dans le langage contemporain un commun global, ben en fait, nous sommes voués à traduire ces interdépendances sous la forme d'un traité de paix mondiale. Et en fait, cette inspiration philosophique-là, qui est un des arguments fondamentaux du libéralisme, de l'humanisme libéral moderne, trouve des échos très forts après la Seconde Guerre mondiale, parce que les premières politiques environnementales d'échelle internationale ont été élaborées sous l'égide des Nations Unies, et plus précisément d'ailleurs sous l'égide de l'UNESCO, c'est-à-dire de la section des Nations Unies dédiée à la préservation du patrimoine culturel et scientifique universel à l'humanité. En fait, il y a l'idée que, voilà, comme la planète est une condition d'existence universelle, il faut, pour que ça soit cohérent, au fond, développer un système normatif ajusté à la condition globale et planétaire. De la même manière que les sciences n'ont pas de frontières, que l'idée de vérité, d'humanité n'ont pas de frontières, ben la gestion de l'environnement devrait ne pas en avoir non plus. C'est vraiment l'idée fondamentale qui est la matrice, hein, de ce qu'on connaît aujourd'hui sous la forme des COP. Transcender les jalousies internationales dans un système normatif à visée universelle. C'est une idée qui est très profonde, qui est probablement assez juste, qui n'est pas sans avoir façonner réellement les enjeux climatiques. Par contre, si elle est dotée d'une très grande légitimité, elle a une efficacité pratique assez limitée. On arrive à définir des normes par ce moyen-là. Par contre, on ne sait pas comment les concrétiser, on ne sait pas comment les réaliser. On ne sait pas, par exemple, comment punir les acteurs qui ne s'y résolvent pas, ou qui jouent contre ça. C'est pour ça qu'il faut probablement avoir un rapport un petit peu distant avec cet héritage très libéral, très humaniste, très cosmopolitique, pour reprendre le terme de Kant. Et s'intéresser un petit peu plus à nouveau au rapport de force qui structure aussi les questions, en fait, notamment énergétiques.
Alors là-dessus, il y a une autre date, hein, qui est clé pour vous, hein, et vous y insistez beaucoup, puisque en fait, vous pensez, enfin, vous rentrez dans le cadre des relations internationales à travers, au fond, le paradigme de la guerre froide. Et donc, la date clé pour vous, au-delà de la guerre en Ukraine, c'était 1945. Et vous y associez d'ailleurs l'Anthropocène, alors que, on le sait, hein, il n'y a pas de consensus historiographique pour dater l'Anthropocène. Est-ce que c'est 45 ou est-ce que c'est la fin du 18e, par exemple, ou est-ce que c'est plutôt encore ? Bon, il y a des débats là-dessus. Bon, pour vous, il y a une rupture, en tout cas, en 1945. Et pour vous, c'est à l'origine de la théodicée, de la paix et de la prospérité, hein, pour reprendre finalement un petit peu cet héritage aussi, cet héritage-là. Qu'est-ce qui a radicalement changé à cette époque en 45, du point de vue des relations internationales et dans son lien justement à l'Anthropocène ?
Alors effectivement, là, on commence à rentrer un peu dans les détails du livre, dans la complexité à la fois historique et théorique du problème. C'est-à-dire, donc je viens d'expliquer un petit peu là. Une grande matrice philosophique, hein, de l'universalisme, donc, qui consiste en fait à relativiser la primauté de l'appartenance à l'État dans la conduite des affaires humaines. Il se trouve que dans cette histoire-là, il y a un autre élément tout aussi, en réalité, plus important, qui est question de la compétition mondiale autour de l'accès aux ressources, et notamment aux ressources énergétiques, et notamment aux ressources énergétiques fossiles. Donc c'est une compétition qui court depuis la seconde moitié du 19e siècle. Hein. Une bonne partie des rivalités entre les grands empires coloniaux est liée à l'accès à ces ressources, suite au démantèlement notamment de l'Empire ottoman après la Première Guerre mondiale, s'ouvre la grande compétition pour les ressources pétrolières du Moyen-Orient. Enfin, il y a toute cette histoire-là. La fin de la Seconde Guerre mondiale est une rupture dans cette histoire d'une quelque sorte d'une compétition anarchique autour des ressources fossiles, parce que l'idée qui est explicitement conçue par de très nombreuses élites politiques et dont les principales traductions politiques sont le plan Marshall et la première mouture du projet européen sous la forme de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Ce projet consiste à dire, pour que la paix règne sur le monde, nous avons un outil extrêmement puissant qui consiste, non pas, contrairement à ce que disaient les libéraux abstraits, idéalistes de l'entre-deux-guerres, à bannir la guerre par un ensemble de normes et de traités, mais à la rendre impossible par un système d'interdépendance commerciale, industrielle, dont le socle est fourni par les énergies fossiles. En 1950, Robert Schuman, dans un discours assez connu, qui est le discours en fait, de fondation de la CECA, dit pour que la France et l'Allemagne ne se fassent plus jamais la guerre, ce qu'il faut faire, c'est mutualiser leurs ressources de charbon et d'acier. Donc c'est une vieille thèse, hein, c'est la vieille thèse de Smith, de Kant, encore une fois, du libéralisme classique anglais, relancé par le libéralisme industrialiste de Saint-Simon, auquel d'ailleurs même Karl Marx croyait, dit en passant, que le développement conjoint des forces productives est vecteur de paix. Parce qu'on contrôle mieux la planète, on limite les risques naturels, en quelque sorte, si on peut dire, mais on limite aussi les risques géopolitiques, parce que quand on est dépendant des ressources du voisin, eh bien, on ne peut pas lui faire la guerre, tout simplement. Et c'est comme ça qu'on transcende les frontières, plutôt qu'en bannissant par des actes purement vocaux le recours à la guerre pour régler des différends internationaux. Donc c'est à ce moment-là que de très grandes et de très lourdes infrastructures énergétiques se déploient à travers le monde. Le plan Marshall, la stratégie d'Eisenhower consiste à réintégrer l'Allemagne et le Japon, les anciens ennemis, dans des infrastructures de paix. Et dans ce qu'un de mes collègues appelle, et une expression que je réutilise beaucoup dans le livre, la paix de carbone. Il y a l'idée que la paix, ça ne se fait pas tout seul, ça se fait sur des infrastructures. Et il se trouve que ce sont des ressources non soutenables qui fournissent la base de cette paix à l'intérieur de laquelle nous avons vécu, je pense, jusqu'en 2022. Jusqu'au moment où... jusqu'au moment, en tout cas, où la Russie dit, nous, notre projet est exactement l'inverse. Nous utilisons les interdépendances fossiles, donc en l'occurrence avec nous Nord Stream. Nous utilisons ça pour rendre une rétorsion diplomatique européenne impossible en cas d'attaque. Bon, ils l'ont fait en Géorgie d'abord, puis en Ukraine une première fois, puis une seconde fois. Seulement la seconde fois que le paradigme a changé. Donc voilà, hein, donc y a une histoire très concrète de la construction de la paix par les énergies fossiles, qui a des racines plus profondes, mais ça c'est un objet philosophique, à mon sens, extrêmement important. Je ne connais pas de travaux théoriques sur cette question-là jusqu'aujourd'hui, donc j'ai essayé de m'y atteler.
Alors justement, votre ouvrage porte, ce que vous rappelez là, une ambition assez forte, c'est-à-dire passer au fond de l'écologie politique à l'écologie géopolitique. Hein. D'une certaine façon, c'est un peu ça, si je devais résumer. Et pourquoi, selon vous, l'écologie est-elle passée à côté, d'une certaine façon, de cette dimension géopolitique? Pourquoi l'a-t-elle occultée? Pourquoi est-ce un angle mort? De quelle façon ça s'est produit? Est-ce que vous pourriez nous éclairer un peu là-dessus?
Ouais, ça c'est une question intéressante et assez complexe. Donc, commençons peut-être par dire, en quelque sorte, les raisons élémentaires pour lesquelles on peut estimer aujourd'hui qu'il faut avoir une attitude plus réaliste face à la question climatique. Après, on peut expliquer pourquoi ça n'a pas été le cas de l'écologie politique majoritaire. On peut le dire de manière très simple. Si toutes les évolutions politiques mondiales sont le résultat de l'exercice de la puissance. Donc, on peut dire ce sont les pays ou les régions ou les alliances de pays les plus puissants qui sont porteurs d'évolutions transformatrices, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Sur la question climatique, il n'y a pas de raison que ça ne s'applique pas. Autrement dit, il faut que un leadership politique prenne les rênes de ces transformations pour les concrétiser, y compris, et même surtout, je dirais, au cas où ça passerait par une confrontation avec d'autres entités politiques qui refuseraient de se passer des énergies fossiles. Autrement dit, voilà. Et le paradoxe, c'est que les pays les plus puissants sont aussi les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Donc là, on a un vrai problème. Jusqu'à présent, le fait que la puissance soit indexée sur la consommation d'énergie fossile rendait totalement impossible l'issue au problème climatique. Quand les États-Unis refusent de ratifier le protocole de Kyoto en disant « c'est notre mode de vie qui est en jeu », c'est ça que ça veut dire derrière, notre mode de vie, mais aussi notre puissance. Donc moi, je pense que nous avons une carte à jouer en disant ben, « en fait, on peut considérer aujourd'hui que la puissance dépend non plus de l'utilisation d'énergie fossile, mais du fait de s'en passer. Peut-être, possiblement, quelque chose est en train de bouger de ce point de vue-là. » Donc, la question de la puissance devient ou redevient centrale. Maintenant, pourquoi les écolos, le mouvement écolo dans sa généralité est passé un petit peu à côté? Pour plein de raisons. La première raison, j'en ai déjà parlé, c'est la filiation idéologique, philosophique, culturelle avec le mouvement, humaniste, idéaliste, transcender les frontières. Dépasser l'État, il y avait l'idée aussi, qui est d'ailleurs pas entièrement fausse, même assez juste, que l'État est précisément ce qui mobilise des moyens pour l'accumulation, le développement technique, la modernisation. Donc effectivement, il y avait de bonnes raisons de penser qu'il y avait une contradiction entre le processus de modernisation guidé par l'État, y compris l'État militaire, qu'il y avait une contradiction entre ça et la préservation des biens publics mondiaux de l'environnement. Donc le mouvement écolo s'est engouffré dans cette brèche. Moi, j'ai pas de jugement rétrospectif à émettre sur cette stratégie-là. En fait, ça faisait sens. Quand le mouvement Greenpeace est fondé sur l'idée que le déploiement des bases militaires américaines un petit peu partout autour du monde s'accompagne de déprédations environnementales, c'était une opportunité politique extrêmement importante à saisir. Quand les mouvements environnementaux disent les connaissances scientifiques sur la nature n'ont pas de frontières, les pollutions n'ont presque pas de frontières, il faut passer au-delà du cadre stato-national, etc. C'est parfaitement compréhensible, ça fait sens, c'est logique. Mais quand, au début du XXe siècle, ou plus exactement récemment dans les années 20, le coût de production des énergies renouvelables baisse subitement, quand il y a une compétition entre différents types d'énergie, quand il y a des projets consistant à utiliser la capacité organisatrice de l'État pour accélérer la décarbonation d'une manière qui ne soit pas trop socialement coûteuse, etc., là, je pense que ça change tout à la question, et ça fait perdre une partie de son, oui, de sa pertinence, si on peut dire, à la matrice, disons, internationaliste, idéaliste.
Merci beaucoup. On va revenir sur ces éléments de rapport de puissance. Avant ça, j'aimerais justement poursuivre un petit peu sur cette critique-là. Et notamment, vous critiquez assez largement la gouvernance climatique mondiale. Pendant de longues pages dans votre livre, il y a vraiment une critique assez forte. Parce que pour vous, elle s'est heurtée justement par rapport à ce que vous venez de dire, la puissance des États notamment. C'est-à-dire que vous disposez vraiment les deux grands paradigmes internationaux, effectivement, entre d'un côté l'idéalisme et de l'autre le réalisme, au fond. Voilà, vous reprenez un petit peu cette opposition. Alors, est-ce que vous pourriez nous préciser en quoi consiste la gouvernance climatique mondiale et surtout pourquoi elle est inefficace selon vous, en lien avec vos...
Oui, en réalité, je l'ai déjà un petit peu dit, voilà. Mais on peut repréciser. Donc, ouais. Ce qu'on appelle habituellement la gouvernance climatique mondiale, c'est donc le cadre institutionnel et régulatoire formé sous l'égide des Nations Unies à partir de la fin des années 80, début des années 90, qui donne lieu à ces réunions annuelles. D'ailleurs, la prochaine va avoir lieu à Bakou dans très peu de temps. On en est à la COP 29. Donc, c'est la 29e année du processus diplomatique de... Alors, tout est là. Est-ce que c'est un processus de mise en forme du problème climatique ou est-ce que c'est un processus de résolution du problème climatique? Difficile à dire. Donc, je l'ai déjà dit, ce processus-là est assez bon pour créer un consensus mondial autour du constat. Donc ça, c'est le branchement entre le GIEC, c'est-à-dire l'organe scientifique, et donc les COP, c'est-à-dire l'organe diplomatique. Ce processus-là est assez bon pour le faire. C'est-à-dire obliger tous les États, par exemple, à faire le décompte de leurs émissions de carbone, à signer des engagements, etc. Ce que ce processus ne sait pas faire et en fait n'a pas réellement pour mission de faire, c'est de créer les moyens politiques réels qui permettent de les réduire, ces émissions de gaz à effet de serre. C'est pour ça, par exemple, que l'année dernière, à la COP 28, qui était très intéressante, les représentants des pays pétroliers, d'ailleurs ça se passait dans un pays pétrolier, les Émirats, disent la gouvernance climatique mondiale n'a jamais exigé de nous que nous cessions d'extraire des ressources fossiles et de les vendre. Ce que ces accords exigent de nous, c'est que nous baissions les émissions. Autrement dit, si nous développons des techniques de capture de carbone, par exemple, on est OK. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Ce que disent aussi les pays producteurs de pétrole, en réalité l'OPEP, c'est nous sommes les garants de la liberté, de l'autonomie des anciens pays colonisés. Vous, les Américains, les Européens, vous voulez vous décarboner très vite, vous êtes nos anciens, enfin pas directement les Américains, enfin d'une forme indirecte, vous êtes nos anciens ou nos actuels maîtres, si on peut dire, vous êtes très riches, vous pouvez vous permettre d'acheter ces technologies, nous, l'OPEP, on protège les intérêts des plus pauvres. Donc, on y reviendra, mais il y a une question de distribution mondiale des risques, des coûts, etc. Donc, en fait, la question des choix technologiques, des choix énergétiques, n'est pas posée par les COP. Elle ne peut pas l'être, parce qu'aucune instance supranationale n'a de mandat pour dire à un pays, vous devez financer d'autres technologies, d'autres stratégies industrielles que celles que vous financez actuellement. Ça n'est pas dans le spectre. C'est pour ça que toute la logique des COP est une logique d'émission. C'est-à-dire, on regarde combien de gaz à effet de serre est émis par tel ou tel pays et à l'échelle mondiale, et on ne regarde pas pourquoi c'est le cas. Ce qu'on ne regarde pas, c'est la dépendance réelle des stratégies de croissance, des stratégies industrielles, des stratégies de distribution de la richesse dans les pays à l'égard des énergies fossiles. Donc ça, ça, moi, je ne reproche pas cette absence au COP. Par contre, je reproche à l'univers intellectuel et politique qui se branche autour de ça de n'avoir pas suffisamment dit qu'il fallait autre chose qu'un processus de construction du consensus sur les émissions. Il faut autre chose. Il y a des collègues, moi je pense qu'ils ont raison, qui vont jusqu'à dire que la domination dans l'agenda mondial climatique de ces questions-là a produit un désintérêt pour les questions industrielles qui est dommageable. Donc c'est une question de cadrage en fait, vous voyez. Et donc moi, il y a des gens qui font de la théorie des relations internationales, en sciences politiques, etc. Moi je suis philosophe, historien des idées, j'essaie de comprendre les origines historiques de ce problème et leur incidence contemporaine. Donc oui, il faut faire, disons, un examen critique du bilan de la gouvernance climatique mondiale. Et d'ailleurs, je précise, parce que moi, je ne cherche pas du tout à faire de la polémique avec les gens qui font partie de ce cadre, pas du tout, qu'une bonne partie d'entre eux et d'entre elles, je ne vais pas dire sont d'accord avec moi, mais en tout cas, sont en train de se faire des réflexions qui sont similaires aux miennes. Par exemple, Laurence Tubiana, qui est une des personnalités principales de l'accord de Paris de 2015, aujourd'hui s'intéresse tout autant, voire plus, aux politiques industrielles qu'à la diplomatie climatique mondiale. Donc il y a un tournant réel, quand même, de ces gens-là aussi.
Alors, merci. Et donc, ça nous fait le lien avec ce que vous dites sur cette écologie de guerre qui serait donc à l'œuvre actuellement, avec les deux grandes puissances, en particulier les États-Unis et la Chine, qui, au fond, d'une certaine façon, se feraient plus la course à la décarbonation qu'au PIB, si on suit un peu votre logique. Parce que là, par exemple, on le voit, la Russie a réuni les BRICS ces jours-ci, et Poutine a dit, ça y est, nous, en fait, c'est nous qui allons tirer la croissance du PIB mondial. On voit, au niveau européen, vous parliez des politiques industrielles, le rapport Draghi montre le retard en la matière européen, et dans le même temps on voit que le Green Deal est remis en cause aussi par les dernières élections européennes, pour partie en tout cas. Donc finalement tout ça est fait de tension. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu là-dessus? Est-ce que véritablement il y a eu ce virage, ou est-ce que on n'est pas dans un changement de paradigme qui est inachevé d'une certaine façon?
C'est exactement ce que vous dites, on est dans un changement de paradigme inachevé. Tout à fait ça. C'est même en réalité pire que ça. Et là, c'est intéressant parce que ça oblige à apporter des éléments de réflexion qui sont pas vraiment dans le livre, parce que c'est lié à des évolutions des derniers mois. En fait, il faudrait presque rajouter une postface ou quelque chose au livre, parce que le cours le plus récent des événements témoigne d'une évolution en fait totalement pathologique de l'écologie de guerre. C'est-à-dire que mon argument consiste à dire peut-être est-il possible de nous appuyer sur ce qui constitue en fait l'intérêt fondamental de l'État, c'est-à-dire la préservation de la sécurité de sa population, pour faire avancer le programme climatique, parce que la question climatique est fondamentalement une menace sur la sécurité des personnes, des États et au-delà, de la communauté, de l'humanité en réalité. C'est un risque existentiel pour tout le monde. Et donc, essayons d'aller jusqu'au bout de ce qu'on peut tirer de cet argument. Autrement dit, créons le clivage géopolitique mondial sur l'axe climatique. Ceux qui veulent faire quelque chose, ceux qui ne veulent pas. Ce qui est en train de prendre forme depuis quelques mois, c'est quelque chose de très différent. Ça a été très bien explicité par un texte récent d'un conseiller stratégique de la Maison-Blanche qui dit on va décarboner, mais on va décarboner made in America. On va essayer de créer des chaînes d'approvisionnement qui vont de la mine de lithium jusqu'à l'usine de panneaux photovoltaïques sous la supervision de l'hégémonie américaine, pour éviter que la Chine n'ait une part trop dominante dans ces filières-là. Et donc, en quelque sorte, c'est l'inverse de l'argument que j'essaie moi de développer, c'est-à-dire que les rapports de force internationaux ne sont pas remodelés par la question climatique, mais la question climatique est conditionnée par les rapports de force internationaux tels qu'ils existent. États-Unis contre Chine. Donc on est en train de reconstituer des grands silos impériaux, des chaînes d'approvisionnement ou des ce qu'on appelle parfois des trading blocks, enfin des blocs commerciaux alignés sur des intérêts géopolitiques, à l'intérieur duquel la question climatique est un facteur secondaire. Donc ça, c'est très net. Après la guerre en Ukraine, la Russie s'est tournée vers d'autres clients, notamment les pays les plus dépendants des énergies fossiles, typiquement l'Inde. Il y a eu une série de visites diplomatiques en Inde, les États-Unis, l'Europe, évidemment la Russie. Et comme les propositions de transfert technologique, de transfert de capitaux pour que l'Inde, elle aussi, entre en écologie de guerre, c'est-à-dire en fait accélère sa décarbonation dans ce contexte-là, c'est l'inverse qui s'est produit. L'Inde a simplement eu accès à du charbon, du pétrole et du gaz bradé. Donc là, on est dans une très très mauvaise passe. Il y a aussi à l'échelle européenne, comme vous l'avez suggéré, les résultats électoraux qui, en fait, ont donné du pouvoir aux factions politiques les plus réticentes à l'évolution du secteur automobile, à l'évolution du secteur du chauffage, des procédés de production industrielle, etc. Donc le Green Deal européen est pas totalement à l'arrêt, mais sérieusement menacé. Les nouvelles qu'on reçoit de Bruxelles et de Strasbourg sont pas bonnes du tout. Aussi parce que le volet social de cette transition n'est pas du tout bien organisé. Donc en ce moment, l'opportunité qui s'était ouverte au début des années 2020 autour de voilà, ce que je propose d'appeler l'écologie de guerre n'est vraiment pas en bonne santé. Pas du tout.
Alors, s'ajoute à cela le fait aussi, alors votre livre est très centré sur la question du climat, hein, évidemment, et dans ses liens aux relations internationales. Mais on sait que la question écologique ne se réduit pas à la question, par ailleurs, du climat. On pourrait penser à la biodiversité en particulier, et notamment au fait qu'on peut considérer à bien des égards que les États ont mené une guerre véritablement contre le vivant. Hein, en tout cas, les puissances et les puissances industrielles ont mené une guerre contre le vivant. Comment ces enjeux-là peuvent être élargis d'une certaine façon? C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y aurait, même si donc le paradigme était accompli, même s'il était achevé, même si on allait vers cette écologie de guerre et notamment structurée autour d'un cadrage qui est sur le climat, est-ce que finalement on n'occulte pas d'autres éléments écologiques qui sont encore plus fondamentaux presque que la question climatique?
Alors ça, c'est une question qui est à la fois intéressante et un peu piégeuse. C'est pas du tout exact de dire que la question de la biodiversité est plus importante que celle du climat. Ou l'inverse, d'ailleurs, ne le serait pas plus non plus. Et c'est pas du tout exact non plus de dire qu'il y aurait une rivalité entre les objectifs climatiques et les objectifs de sauvegarde de la biodiversité. C'est très important. Je crois que l'une des raisons pour lesquelles nous sommes parfois exposés à ce genre d'arguments et que la transition énergétique va de pair avec, en partie, une relocalisation de la production énergétique. Par exemple, on va devoir ouvrir des mines de lithium sur le territoire européen et français. Ça crée du mécontentement social, et ça crée effectivement des externalités environnementales, ça c'est sûr. Par contre, nous étions tellement habitués à délocaliser notre empreinte écologique, parce qu'il n'y a plus de mines de charbon en France et en Europe, enfin en Europe il y en a, mais en France il n'y en a plus depuis assez longtemps, des puits de pétrole il n'y en a quasiment jamais eu, de gaz, même chose, même d'ailleurs de production industrielle de manière générale. On s'était tellement habitués à ça que voir revenir sur notre territoire, en fait, les conséquences environnementales de la production industrielle, crée du déplaisir, mais c'est vraiment un phénomène de ce qu'on appelle NIMBY, c'est-à-dire hein, on aime bien la pollution quand c'est loin, mais quand c'est chez nous, on n'aime pas. Donc il y a ça, et irrémédiablement, la transition va faire que nous supporterons plus, paradoxalement, les conséquences environnementales de notre mode de développement. Par contre, ces conséquences environnementales sont extrêmement moindres que celles qui sont produites par un régime technique et économique fossile. une mine de charbon de plusieurs kilomètres carrés alimente une centrale électrique en Chine ou en Australie ou peu importe où. Une mine de lithium à peu près 10 fois plus petite alimente les besoins, si la ressource est bien utilisée, recyclée, etc., alimente les besoins d'un pays entier ou même d'un continent entier. Il faut être extrêmement attentif aux rapports techniques rédigés par l'IEA, par les institutions en fait régulatrices des énergies renouvelables. Certes, ces énergies occupent plus d'espace, elles sont plus visibles, elles ont des externalités environnementales, ça c'est certain. De toute façon, il n'y a rien que nous fassions qui n'en est pas, hein, ça il faut être clair. Par contre, elles sont moindres, mais dans un ordre de grandeur significatif. D'accord ? Le passage aux énergies renouvelables réduit la voilure matérielle de l'économie mondiale de manière extrêmement nette. Donc ça, c'est bénéfique pour la biodiversité. Largement. Il n'y a aucun problème là-dessus. La question de la biodiversité, d'ailleurs, c'est plus une question de front pionnier agricole sur les grandes régions de méga-biodiversité en Amérique latine, en Afrique, en Asie du Sud. Là, c'est évident que le lobby foncier, soja, bœuf brésilien, etc., est vraiment dans le viseur du mouvement pour le climat, pour la biodiversité. Là, il y a un alignement total. Donc, vous voyez, la question de la biodiversité est tout aussi importante que la question climatique et que d'ailleurs d'autres choses. Il y a la question de l'eau aussi, il y en a beaucoup. Mais il n'est pas vrai de les mettre en compétition. C'est à la fois pas vrai factuellement et stratégiquement totalement désarmant de les mettre en compétition l'une avec l'autre. Quasiment toutes les politiques climatiques sont bénéfiques pour la biodiversité. Donc aujourd'hui, on déplore beaucoup, par exemple, l'hypothèse que nous substituions le parc automobile fossile par un parc automobile électrique. Mais ça, c'est pas une politique climatique, pour être très clair. Hein. Une politique climatique, c'est substitution, efficacité, donc des véhicules plus petits, plus économes, et sobriété, c'est-à-dire plus de transport public et moins de transport privé. Ça, c'est une politique climatique. La seule substitution, c'est pas de la politique climatique. Juste, voilà, point final, quoi. Donc, il faut être très clair avec ça. D'ailleurs, ça a plein de conséquences, mais on sort un petit peu du domaine de la géopolitique. Mais voilà, moi, curieusement, ces derniers temps, je passe pas mal de temps à essayer de répondre à ce genre d'argument, parce que si on se retrouve dans un scénario où le monde du climat se bat contre le monde de la biodiversité, alors là, vraiment, on va pas s'en sortir.
Merci pour votre réponse et ces éléments de conviction. Alors, j'avais une autre question peut-être pour maintenant passer un peu à quelles conclusions tirer de votre livre, parce qu'en fait, bon, vous l'adressez aussi au mouvement écologiste, hein, pour que évidemment il puisse se repenser. Donc, comment pourrait-il ce mouvement écolo repenser justement, parce que là vous en avez fait la critique, mais comment pourrait-il repenser la souveraineté, les rapports de puissance justement à l'ère écologique, hein, alors qu'on voit bien que le nouveau paradigme est un peu inachevé. C'est-à-dire, quelles sont les mutations du point de vue de l'écologie politique, au fond, que votre travail engage?
Alors, la première chose, déjà, est que, pour moi, le fond du problème, c'est pas du tout la souveraineté. Hein. Mon livre ne défend pas du tout le retour à la souveraineté. En fait, il y a un réflexe intellectuel qui s'est installé dans l'espace public, qui consiste à dire, bon, ok, l'âge de la mondialisation heureuse est terminé, l'âge de la grande harmonie des intérêts sous l'égide américaine, ok, on a compris, c'est fini, fragmentation, conflit, donc souveraineté. Moi, mon argument, c'est pas ça du tout. Parce que ce que j'essaie de mettre en perspective à la fin du livre, dans le dernier chapitre et dans la conclusion, c'est un scénario de création de coalition qui est international. L'idée de dire, il existe en fait des intérêts communs entre des puissances petites et grandes. Ces intérêts communs peuvent rassembler différentes nations. Il se trouve d'ailleurs que cet intérêt commun est aligné avec l'intérêt universel de l'humanité, parce que on utilise moins des énergies fossiles qui sont aujourd'hui beaucoup plus en fait des forces de destruction que des forces de production. Donc essayons de créer une dynamique internationale sur cet argument qui permet de, puisqu'il y a de la conflictualité mondiale, au moins de la loger au bon endroit. De dire, par exemple, nos ennemis, c'est plus la Russie ou l'Arabie Saoudite, il faut les désigner, c'est plus certaines entreprises, parce qu'il n'y a pas que des États, hein. Les entreprises ont aussi un rôle géopolitique. Donc évidemment, les grandes entreprises d'extraction de ressources fossiles. Donc, le clivage, il passe entre États, mais il passe aussi à l'intérieur des États. Par exemple, la Chine est aujourd'hui le plus gros producteur et le plus gros installateur d'énergie fossile et d'énergie renouvelable. Donc il y a un conflit à l'intérieur de ce pays. Et d'ailleurs, les États-Unis vont pas tarder à avoir le même genre de dilemme interne ou de clivage interne. Donc c'est des clivages. Par exemple, il y a un clivage aussi entre l'OPEP et l'IEA, l'Agence internationale de l'énergie. Il y a plein de clivages comme ça. À l'intérieur de la société, il y en a aussi, mais ça, c'est un enjeu un peu différent que je traiterai dans le prochain livre. Donc c'est ça qu'il faut repérer pour composer une coalition d'intérêts et d'acteurs supranationaux. Certains sont des États. Par exemple, je sais pas, il y a des acteurs, il y a des États dont on peut penser qu'ils sont de manière pleine et entière dans cette coalition. Le Danemark, par exemple, qui utilise presque plus d'énergie fossile. Mais bon, c'est un tout petit pays. Donc, ça peut être des États, des groupes d'États. L'Union européenne, à mon sens, devrait être à l'avant-garde de cette coalition. Et l'objectif de cette coalition, c'est de faire tomber de notre côté des acteurs nationaux, supranationaux, qui n'y sont pas encore tout à fait. Par exemple, les grands émergents. Le Brésil, la RDC, l'Indonésie, sont des pays clés. Leur modèle économique est dépendant de choix technologiques insoutenables et politiques insoutenables. Il faut créer l'intérêt pour ces pays d'un changement de modèle qui ne soit pas un sacrifice économique pour eux, parce que sinon ça ne marchera jamais. Certaines entreprises multinationales prétendent être des entreprises alignées sur la cause climatique. Eh bien, il faut les prendre au mot et leur imposer les conditions auxquelles elles le seront véritablement. Les grandes entreprises énergétiques, évidemment, certaines entreprises automobiles qui veulent faire de l'électrique, les entreprises qui fabriquent des trains, les entreprises qui font de l'innovation dans le domaine du solaire, de l'éolien, etc. etc. C'est ça que moi, que je défends, et pas du tout un patriotisme vert. Ça, c'est totalement impossible, et ça l'est d'autant moins dans un pays comme la France, par exemple, qui est un tout petit pays, qui n'a pas beaucoup de ressources et qui, par ailleurs, ce qui m'embête beaucoup dans le renouveau souverainiste, c'est que c'est un souverainisme à sens unique, c'est-à-dire on ne veut plus être dépendant des importations des autres, enfin, venus de l'extérieur. Par contre, on est toujours très content d'exporter nos trucs. La France, par exemple, est un pays dont le modèle économique dépend des sacs à main Vuitton et des avions Airbus. Et ça, on peut. Et le vin, par exemple. Il n'y a pas d'autre, enfin, l'autoconsommation ne sera pas suffisante. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas rêver subitement d'une autosubsistance, d'un modèle économique clos. D'ailleurs, enfin, ce serait pas du tout sérieux de vouloir le faire. Donc, il faut embrasser et défendre d'autres types d'interdépendances économiques alignées sur l'impératif climatique et plus généralement écologique. D'ailleurs, la remarque est juste de ce point de vue là. Donc, ça, c'est un redéploiement de cette interdépendance et pas. L'état commercial fermé de Fichte.
Puisque vous évoquez la France, on a également longuement parlé de la question de la guerre froide. Il y a aussi est-ce que le nucléaire appartient à ces politiques climatiques? Enfin voilà, c'est un peu la question que je voulais vous poser parce que pour la France, évidemment, c'est pas tout à fait neutre. On sait qu'il y a une bataille hein, justement pour prendre en compte ou pas le nucléaire dans les stratégies bas carbone, notamment. Hein, il y a eu une bataille autour de cela. Ça vaut pour le nucléaire civil en particulier, évidemment. comme facteur d'indépendance énergétique, hein, s'est positionné comme tel pour la France, mais aussi comme facteur de sécurité sur le plan militaire, hein, évidemment. Donc, comment vous voyez ça? Parce que le mouvement écolo s'est quand même structuré dans les années 70 contre le nucléaire. Hein. On peut penser à toutes les manifestations qu'il y a pu avoir, Creys-Malville, etc. Donc, comment est-ce qu'il y a une entreprise de révision à avoir là-dessus ou pas, selon vous?
Oui, je pense. En fait, le cas de la France est totalement atypique dans cette histoire. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, justement, le développement du nucléaire civil en France est profondément une question de, pour le coup, vraiment de souveraineté. D'abord, après la Seconde Guerre mondiale, ça a été accéléré après la crise de Suez, où la France a, et pas seulement la France, mais surtout la France, s'est rendue compte de sa dépendance à l'égard des importations d'énergie fossile. Et puis plus encore après la crise pétrolière de 73, où le plan Messmer est une conséquence, hein, de la crise pétrolière de 73. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Il se trouve que ces idées n'ont pas du tout été développées, contrairement à ce que disent parfois les gens de l'industrie nucléaire, pour des raisons climatiques. Parce qu'à l'époque, c'était pas dans le débat. Mais il se trouve que c'est une énergie bas carbone. Donc les infrastructures nucléaires de France sont des infrastructures bas carbone, et c'est une excellente chose. Par contre, ce qui s'est produit en France ensuite, et qui là est quelque chose de totalement à la fois propre à la France et quand même une curiosité, et je pense qu'on peut même qualifier ça de scandale d'État, c'est la lutte des groupes d'intérêt autour de l'atome contre les renouvelables. C'est-à-dire qu'il y a eu très longtemps, aujourd'hui il semble que ça s'estompe, mais il y a eu très longtemps, un conflit entre deux formes d'énergie bas carbone. Les groupes d'intérêt scientifiques, technologiques, etc., disant non, mais le solaire, l'éolien, c'est trop petit, c'est trop intermittent, on s'en sortira jamais, etc. Jean Covici a dit ça très longtemps, aujourd'hui il change un petit peu de discours. Donc on a eu ce clivage-là, qui d'un point de vue climatique, évidemment, est totalement incompréhensible. En Allemagne, ils ont un peu la question symétrique. On veut freiner le nucléaire, on accélère le renouvelable, mais on garde une base productive très carbonée. Donc, en fait, la géométrie des rapports de force entre les choix technologiques est souvent un petit peu est difficile à comprendre. Aujourd'hui, la France est très nucléarisée. Moi, je ne fais pas partie des gens qui pensent qu'elle devrait l'être encore plus. Et surtout, le problème qu'on a, il est beaucoup plus trivial que ça. C'est-à-dire que la demande d'électricité va très fortement augmenter dans les années et les décennies qui viennent, parce que, en fait, les politiques climatiques sont des politiques d'électrification, hein, essentiellement. Hein, on dégage tous les moteurs thermiques, on les remplace, enfin tous, justement, pas tous, parce qu'il y a aussi de l'efficacité, de la sobriété, mais beaucoup de moteurs thermiques, on les remplace par des moteurs électriques. Donc la demande va augmenter. Et si on fait un plan de renouveau nucléaire, aucune centrale ne sera raccordée au réseau avant la fin des années 2030, voire 2040, vu le rythme d'installation de ces technologies-là. Et donc, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que le nucléaire est une énergie bas carbone qui n'est pas en mesure de répondre à l'impératif climatique aujourd'hui. Et donc, c'est la raison pour laquelle je pense que, à mon avis, le débat doit être totalement restructuré, c'est-à-dire ce contre quoi il faut se battre. C'est pas contre l'existence des technologies civiles nucléaires. Ça, c'était la stratégie des écolos classiques. On ne veut pas du nucléaire par principe. C'est dangereux, c'est l'État modernisateur, c'est centralisé, etc. Il faut être, disons, beaucoup plus stratégique dans les choix et faire une critique de la dépendance de l'État à l'égard de l'univers de l'atome, qui fait que nous avons retardé le déploiement des énergies renouvelables, pas parce que l'atome, c'est pas bien, mais parce qu'il a verrouillé d'autres possibilités. Et donc, à mon avis, le débat ne doit pas porter sur la valeur de la technologie elle-même, mais sur des choix stratégiques, technologiques, industriels, qui sont aussi, effectivement, en arrière-plan, des choix de souveraineté, mais pas de souveraineté au sens de prévalence de l'intérêt national sur tout autre, mais simplement, en fait, de sécurité nationale, quoi. Donc je pense que c'est comme ça qu'il faut recadrer le débat.
D'accord, critiquer le sentier de dépendance. Donc, pour conclure notre entretien, j'aurais aimé vous poser une dernière question relative à la démocratie, hein, et à ce que tout ce langage, puisque vous parliez des gens. Et donc, pour être provocateur, est-ce que les conventions citoyennes pour le climat sont compatibles avec l'écologie de guerre ?
Alors, le problème est plutôt de savoir quel genre de démocratie écologique on veut. Je pense que les conventions citoyennes pour le climat, en fait, est liée à une conception de la démocratie que moi, je ne partage pas, qui est fondée sur l'idée que c'est en étendant le cercle de délibération qu'on envoie à l'État des signaux qui va ensuite traduire sous la forme de politique publique, et que les citoyens qu'on va prendre sont des citoyens abstraits. Des citoyens qui ne sont pas des gens qui travaillent dans telle ou telle industrie ou qui habitent dans tel ou tel endroit, mais des citoyens rôlesiens, en fait, hein, qu'on dépouille de leurs caractéristiques réelles et qu'on informe correctement. Donc c'est très important de bien informer les gens, évidemment, mais je crois que ça ne suffit pas. Parce que les citoyennes sont des gens qui, pour certains, sont déjà émancipés de la dépendance carbone, et d'autres ne le sont pas. Soit parce qu'ils sont très riches et donc ils émettent beaucoup, soit parce qu'ils le sont beaucoup moins, très vulnérables, et qu'ils ont une vieille voiture, une maison mal isolée, qu'ils habitent loin de leur lieu de travail, qui peuvent être, par exemple, chauffeurs de poids lourds, travaillent dans une aciérie, etc., etc., etc. Et un des enjeux principaux de la décarbonation de ce pays et du reste du monde, c'est de faire sortir les gens de la dépendance. Pour les gens très riches qui consomment beaucoup, c'est simple, hein, on les taxe, on régule, on interdit certaines choses. Enfin, c'est simple. Les mesures sont simples. Pour ceux qui sont dépendants, c'est-à-dire qui ont des émissions contraintes, là c'est très compliqué. Il faut les accompagner. En fait, il faut leur prendre de l'argent, mais eux, il faut leur en donner en quelque sorte. Parce qu'une pompe à chaleur ça coûte cher, une voiture électrique ça coûte cher, ou des billets de TGV ça coûte cher. Reprendre un parcours de formation pour ne plus travailler dans un secteur dépendant du carbone, mais dans un autre, c'est très compliqué. Il y a un coût organisationnel, logistique, etc. Et si on fait supporter cette charge-là, en fait, à la masse critique de la population, elle n'acceptera jamais de s'engager dans cette société décarbonée. Pour moi, ça, c'est la démocratie. Et donc, c'est la démocratie verte, ou la démocratie climatique, doit raisonner à partir de la situation réelle des citoyens et des citoyennes dans le tissu économique, productif, dans des questions de justice. C'est des transports, c'est des choix alimentaires, c'est l'isolation des bâtiments. Quand on vit en collectif, on ne peut pas le faire par soi-même. C'est vraiment, c'est des grandes politiques publiques. Ça, c'est de la démocratie. C'est la démocratie où le signal, il n'est pas juste du citoyen vers l'État, mais aussi citoyen-État. C'est une boucle. Hein, c'est un flux de symboles et de décisions entre les gouvernants et les gouvernés. Donc, je crois que c'est ça qu'il faut faire. Et pour ça que moi, la Convention citoyenne pour le climat, j'y ai jamais vraiment cru, comme beaucoup. Hein, je suis loin d'être le seul et je n'ai pas été surpris de l'absence de résultats.
Donc, ancrer la démocratie dans ses conditions sociales. Merci beaucoup pour cet entretien, pour la richesse de vos réponses. Et donc, on ne peut qu'encourager, évidemment, à lire votre livre et à poursuivre le débat autour de ce réalisme écologique. Merci beaucoup.
Merci à vous.